Expat Communication vient de présenter au Quai d'Orsay les résultats des 4 enquêtes de son baromètre pour l'année 2024 sur le thème « Le tour de l'expatriation en 2024 ». Lancé il y a 10 ans, ce baromètre permet d'actualiser tous les ans notre perception du visage de l'expatriation des Français. Alix Carnot est directrice associée chez Expat Communication. Explication.
Les principaux enseignements, c'est d'abord que l'expatriation change, parce que le profil des expatriés change, que leur motivation change et que les difficultés restent à peu près les mêmes. Voilà en synthèse. Alors, quand on dit que les expatriés changent et leur motivation de départ change, qu'est-ce que ça veut dire? On voit se poursuivre le fait que l'expatriation d'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui dit à quelqu'un « j'ai besoin de vous à tel ou tel endroit du monde et je vais vous accompagner pour partir », se poursuit en volume constant mais diminue en volume relatif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'expats ou de gens qui partent à l'étranger et pas plus de gens qui partent avec leur entreprise. Ce qui veut dire que ceux qui vont partir par eux-mêmes vont avoir toutes sortes de besoins spécifiques parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et puis, ils vont avoir un profil différent. Qu'est-ce qui change encore dans les motivations de départ? C'est que même pour ceux qui partent à la demande de leur entreprise, la raison profonde qui fait qu'on part n'est plus « je pars parce qu'on me le demande pour un job », ça n'est même plus « je pars pour accélérer ma carrière », c'est d'abord, je pars pour une expérience personnelle, pour sortir de ma zone de confort, pour apprendre une nouvelle langue, pour me confronter à l'ailleurs, surtout chez les femmes. C'est-à-dire que la part de « je pars pour me développer, me confronter à l'ailleurs » est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes, pour qui l'aspect « je pars pour une meilleure qualité de vie et des meilleurs revenus » est beaucoup plus important que chez les femmes.
Est-ce que ça veut dire que les femmes partent de plus en plus seules ?
C'est une très bonne question et on va voir que c'est le cas un peu dans toutes les catégories d'expatriés. Parce que pour mieux comprendre les expatriés, on les a classés en différentes catégories. Et on voit par exemple qu'une femme, si elle veut être envoyée par son entreprise, a 3 fois plus de probabilité d'être célibataire qu'un homme envoyé par son entreprise. C'est un peu le prix à payer pour une femme si elle veut être expat d'entreprise. Là où les femmes avant étaient surtout conjointes, maintenant, elles vont pouvoir partir, mais quand c'est elles qui initient le mouvement, quelles que soient les catégories, plus souvent elles sont seules. C'est-à-dire qu'il reste quand même difficile pour un homme de suivre sa femme à l'étranger.
Quelles ont été les difficultés de l'expatriation en 2024 ?
Première difficulté de l'expatriation, c'est les questions administratives, autant au départ qu'au retour, voire peut-être même plus au retour. Les expats nous parlent de leur stress avant le départ, en disant que c'est une période hyper dense, mais ça surprendra personne. Une fois qu'on est arrivé, la difficulté, c'est la solitude, surtout pour les conjoints, et c'est la langue pendant la première année. Après, ce qu'on voit dans l'étude, c'est à quel point les expats apprennent les langues et se développent, quel que soit leur âge. Il y a peut-être une chose spécifique en 2024, qui était apparue déjà en 2023 très nettement, mais qui se poursuit, c'est la hausse des coûts de santé. Un peu partout dans le monde, les caisses de beaucoup d'institutions de santé ou d'assurance ont été vidées par le Covid. Le coût des médicaments augmente et donc dans beaucoup de pays, les cotisations sociales augmentent et le reste à charge aussi. Et donc, il y a de plus en plus d'expats qui disent que c'est un problème de pouvoir financer sa santé dans les pays où ils habitent. Enseignement aussi sur les difficultés. La principale difficulté de l'expatriation, finalement, c'est le retour, avec aussi bien des questions administratives mais aussi des questions liées à la difficulté de retrouver sa place après être parti. Les gens parlent de la difficulté de communiquer sur son expérience, de valoriser ses compétences, et puis surtout un sentiment de ne plus faire complètement partie de la bande, d'être un peu étranger. Et ce qu'on apprend dans l'étude, c'est que ça perdure pendant des années. 6 ans après, 10 ans après, il y a une part importante des anciens expatriés qui disent toujours « ça m'a changé durablement et ça fait une petite note différente dans la musique que j'aimais ». Mais est-ce quelque chose de négatif? Oui, c'est pas confortable, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on est parti, pour être changé.
Et pour ceux des expatriés qui ne rentrent pas?
D'abord, à propos de ne pas rentrer, et ça va avec le fait de ne plus partir pour une entreprise, quand on part en expatriation, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça, c'est assez nouveau. Avant, les gens partaient pour 3, 5 ans. Maintenant, ils partent pour voir, avec une durée d'expatriation qui ne fait qu'augmenter. Ce qu'on découvre aussi, c'est dans les relations avec le pays d'origine. C'est un peu français un jour, français toujours. C'est-à-dire que chez les expats qui ont répondu aux enquêtes, l'intérêt pour les législatives de l'été dernier était énorme. 8 sur 10 disaient que leur intérêt sur une échelle de 0 à 10 était à 10, y compris chez les jeunes et y compris chez ceux qui avaient plus de 20 ans d'expatriation. Donc ce lien avec la France ne passe pas. Et on le voit aussi dans leurs consultations de médias. Un tiers des expats lisent la presse ou écoutent la presse spéciale pour les expatriés. Et ce, même après 20 ans d'expatriation. Le taux ne bouge pas. On est à 30% au bout de 2 ans et 30% au bout de 25 ans. Ça veut dire, pour une part importante de ceux qui sont partis, toute leur vie, ils vont garder ce statut de « je suis de mon pays d'accueil », on le devient de plus en plus, bien sûr, mais je reste français et je reste lié à la France et je reste lié à la communauté des Français de l'étranger.
Quels ont été les temps forts de l'expatriation en 2024?
Alors, il y a la fin du Covid, la fin de l'effet Covid, et ça, on le voit parce qu'on mesure le moral des expats tous les trimestres. En 2024, il ne fait qu'augmenter et c'est une tendance qui dure depuis 2021. Et là où ça a été très marqué, ça a été chez les enfants. Le moral des enfants, raconté par leurs parents en tout cas, s'est nettement amélioré. Et pour nous, ça, c'est la page Covid qui se tourne. Donc ça, c'est un point important. Autre point important pour 2024 spécifiquement, c'est l'effet de l'inflation qui diminue. L'année dernière, on avait un chiffre très fort. Les trois quarts des expats disaient qu'ils avaient ressenti une baisse de pouvoir d'achat du fait de l'inflation, notamment à cause des écarts entre devises. Et cette année, ça n'est plus le cas. Il y en a encore 40% qui disent qu'ils n'ont pas récupéré leur niveau de pouvoir d'achat d'avant. Mais c'est quand même loin des 75% l'année dernière. Donc, baisse dans l'inflation. Et puis, quelque chose qu'on mesure de très près, parce qu'on s'attend à ce que ça bouge, mais pour l'instant, ça frémit seulement. C'est un sentiment d'insécurité par rapport au contexte géopolitique mondial qui monte un peu, pas encore beaucoup, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les changements géopolitiques qu'on voit, ils s'appliquent à tout le monde sur la planète, pas spécifiquement aux expats, mais quand on est à cheval sur deux pays, forcément, on est beaucoup plus sensible aux conflits, aux possibilités de voyager d'un pays à l'autre, aux relations entre les pays. Et on voit des choses qui montent. Alors évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins d'expats en Russie, enfin quasiment plus, il y en a beaucoup moins en Chine. Le nombre d'expats baisse dans pas mal de pays. Et enfin, il y a plus de pays où on nous dit « je ne suis pas tout à fait à l'aise en tant que Français dans le pays où j'habite ». Et c'est le cas pas mal en Afrique francophone et dans le Maghreb, où il y a des mouvements contradictoires, à la fois pas mal de nouvelles personnes qui arrivent, parce que c'est des pays qui économiquement vont assez bien, je pense en tout cas au Maroc, et en même temps des expats de longue date qui disent « je ne m'y retrouve plus, là les relations se tendent, donc je rentre ». On va observer de près comment ça se passe en 2025.
Est-ce que le profil de l'expatrié en 2024 a évolué?
Oui, il a évolué. C'est moins un expat d'entreprise, c'est plus souvent une femme seule. C'est quelqu'un qui parfois part sans avoir de job, plus à l'aventure, et surtout pour une durée plus longue, sans visibilité sur sa durée d'expatriation. C'est des changements majeurs. Après, ça reste des gens beaucoup plus diplômés que la moyenne. Il y a une large majorité, 70% de bac plus 5, ce qui ne correspond pas du tout au niveau de diplôme de la population française. Donc pour rêver d'ailleurs, il faut soit avoir le confort que donnent des études qui nous ont exposés à l'international et un bagage solide, soit une force de caractère et un esprit aventurier hors norme.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en 2025 pour expatriation? Améliorer ou modifier en 2025?
À la fin de la présentation du baromètre, on a proposé à tous ceux qui étaient présents et qui représentaient l'ensemble de l'écosystème de l'expatriation, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les élus, les entreprises, les prestataires, les expatriés, bien sûr. Donc, on les a invités à faire un exercice de networking, justement, pour répondre à la question que vous posez. Et qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord et toujours la préparation, c'est-à-dire vraiment sensibiliser ceux qui vont partir, d'autant plus qu'ils partent souvent de leur propre initiative, à toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, retraite, santé, visa, administration, langue, solitude, recherche d'emploi, visa du conjoint, tous ces sujets-là, de les anticiper. Et donc, par exemple, de façon concrète, le site Femmes Expat a édité des guides, guide de l'expatriation, guide de la scolarité à l'étranger, guide juridique de la famille internationale, etc., qui permettent de trouver en peu de pages plein d'infos sur le sujet. Ça, c'est le premier sujet, c'est la préparation encore et toujours. Deuxième question qu'on peut faciliter, là, c'est assez spécifique pour ceux qui partent en couple, c'est la carrière du conjoint, avec toujours la question du visa de travail pour le conjoint et puis de l'accompagnement professionnel, ou en tout cas au projet de vie, pour aider le conjoint à garder sa place pendant cette période. Et là, il y a à faire connaître, par exemple, des choses qui existent déjà, comme la convention Syndex, qui permet de garder son poste quand on part en expatriation à deux pour le compte d'une grande entreprise. Faire connaître le fait que quand on démissionne pour suivre son conjoint, on peut toucher le chômage au retour si on a démissionné dans les bonnes conditions. Travailler sur les visas de travail pour les conjoints. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour aider le conjoint à ne pas se sentir seul et pas avoir l'impression que le sentiment de flottement qu'il peut ressentir est un échec personnel et qu'il y a des outils pour l'aider. Troisième point, c'est vraiment le retour. Faciliter le retour sur le plan administratif, sur le plan émotionnel. Et là, pour ce qui est d'Expat Communication et de son site Femme Expat, on va sortir en 2025 un guide du retour avec des tas de conseils aussi bien émotionnels que administratifs et pratiques pour réussir mieux cette période.
Cette présentation au Quai d'Orsay était très très riche. Est-ce que vous avez un lien à donner à tous ceux qui aimeraient?
Oui, vous pouvez retrouver toute la présentation. Alors c'était une présentation qui était surtout faite pour le présentiel, mais il y a une captation qui a été faite et des synthèses sous forme d'articles sur le site Expat Communication dans la rubrique Baromètre. Et vous pourrez retrouver tout ce qu'on s'est dit là et encore beaucoup d'autres choses qui vous permettront de faire le tour de l'expatriation en 2024. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont rendu ce baromètre possible, les entreprises qui sont membres du board, la Banque de France, April, Carrefour, la Caisse des Français de l'étranger et le groupe Globe Educate, mais aussi et peut-être surtout tous les expatriés qui répondent à nos enquêtes. Il y en a eu plus de 10 000 cette année. Donc c'est super important parce qu'on sait que les expats sont très sollicités, il y a souvent des sondages, des demandes de toutes sortes. Donc le fait qu'il y ait 10 000 personnes qui ont passé en moyenne entre 10 minutes et un quart d'heure à répondre à ces enquêtes, on en est hyper reconnaissant, ça nous oblige aussi parce qu'il faut savoir ce qu'on apprend grâce à vous, il faut que ça serve vraiment à transformer l'expatriation. Et puis en 2025, on va avoir des nouvelles enquêtes, on va vous interroger sur la santé en expatriation, sur l'éducation des enfants, sur les conditions de vie et puis sur l'expatriation d'entreprises et les VIE. Ce sera les quatre thèmes des enquêtes 2025. Et on vous remercie d'avance de prendre ce temps. C'est généreux et vous voyez qu'on essaye vraiment d'en tirer tout ce qui est possible pour améliorer vos conditions de vie et aussi pour mieux faire comprendre ce que c'est que l'expatriation, parce que les expats ont encore trop souvent une image de privilégiés, de personnes pour qui tout est facile et ce n'est pas du tout le cas. Et donc vraiment le but de ces enquêtes, c'est de raconter la réalité de l'expatriation pour que les futurs expats se préparent mieux, mais aussi pour que les expats actuels puissent plus facilement se faire comprendre auprès de leur famille restée en France et des institutions.